Ce 31 juillet, c'est la fête de Saint-Ignace de Loyola. L'un des, vraiment des plus grands saints de l'Église et à la fois un des plus étonnants, qui n'était pas sans défaut selon l'analyse de son écriture qui a été faite par le père Moretti, un capucin dont je vous ai déjà parlé dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Copinon conforme » et que l'on ne peut plus trouver dans le commerce. Ça a été publié de nombreuses années chez Casterman, une grande maison d'édition chrétienne. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'ajoute que c'est aussi aujourd'hui la fête de Saint-Germain, et je salue le curé de la paroisse Saint-Germain-d'Outremont, que j'aime beaucoup, le père André Legault, de la congrégation Sainte-Croix, qui m'a reçu si gentiment quand je suis allé prêcher dans sa paroisse, il y a plusieurs mois. Et c'est là, dans cette paroisse aussi, qu'il a célébré les funérailles de ma mère en 1982 avec tellement d'intelligence. Et si vous voulez vraiment entendre un prêtre prêcher avec beaucoup d'intelligence, de foi et de qualité, avec une connaissance profonde de l'Écriture, allez entendre le père André Legault. Il y a une station de métro tout près de la paroisse Saint-Germain-d'Outremont. C'est peut-être une paroisse de riches, dit-on, mais c'est une paroisse de foi. Et c'est une paroisse qui est vraiment dynamique. Donc, Saint-Ignace de Loyola aujourd'hui, et je trouve dans un texte de Saint-Ignace, ces paroles très très belles sur la consolation et la désolation. Il dit, j'appelle consolation toute augmentation de foi, d'espérance et de charité, et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Quand on est en Dieu, quand on est attiré par les choses célestes, quand on est rempli de foi et d'espérance et de charité, vraiment, ça c'est une période de consolation et c'est un état à souhaiter pour jusqu'à notre mort. Et Saint Ignace ajoute, j'appelle désolation le contraire, c'est-à-dire les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Que c'est merveilleux de décrire ainsi les deux états dans lesquels nous pouvons être plongés, et j'espère que ces vies des saints vous donnent le goût vraiment de faire comme les saints. Vous verrez comme lui, il a lu des vies de saints, il s'est converti. C'est merveilleux sa vie. C'est une vie pleine de choses extraordinaires. J'ajoute qu'aujourd'hui, c'est la fête aussi d'un évêque, martyr Saint Calimère à Milan. Il y a aussi à Césarée, en Mauritanie, c'est-à-dire à l'ouest du désert du Sahara, la passion d'un bienheureux martyr aussi qui est très intéressante à lire. Enfin, on ne le connaît pas beaucoup, son nom est Fabius. Mais aussi en Syrie, 350 moines martyrs qui ont été massacrés par des païens, des ennemis de l'Église qui s'étaient séparés de l'Église. Déjà, les querelles entre les différentes factions existaient. Mais souvent, pour des raisons politiques, je vous le rappelle, ce sont les gens qui ne croyaient pas qu'il y ait deux natures en Jésus-Christ. Que c'est ridicule de tuer 350 moines pour des raisons pareilles en l'an 517. Et à Ravenne, il y a aussi la mort de Saint-Germain, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est mort à Ravenne, dans cette belle ville qu'il faut voir en Italie. Puis à Sienne, ben c'est la mort aussi de Jean Colombini, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Il faudrait bien que je vous en parle un jour, ça ira l'année prochaine. Qui est célèbre, lui, ce saint, pour sa sainteté et ses innombrables miracles. Il est mort en 1367. Il y a aussi, à Suède, une sainte martyre qui est morte au 12e siècle. Et enfin, en Éthiopie même, il y a le bienheureux Justin de Jacobis qui était évêque, qui est mort en 1860, lui. Il est mort en 1860, un bienheureux éthiopien. Et alors donc, pour en venir à Saint-Ignace de Loyola, c'est un Basque, hein, un Espagnol, un Basque. Et dans un sermon qui avait été prêché chez les Jésuites à Paris, qui s'appelle la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis maintenant, eh bien le 1er janvier 1667, Bossuet avait terminé son sermon en disant « Et vous, célèbre compagnie, vous savez qu'Ignace de Loyola est le fondateur de la compagnie de Jésus, les Jésuites, hein? Et vous, célèbre compagnie, qui ne portez pas en vain le nom de Jésus, à qui la grâce a inspiré ce grand dessein de conduire les enfants de Dieu dès leur plus bas âge jusqu'à la maturité de l'homme parfait en Jésus-Christ, à qui Dieu a donné des docteurs, des apôtres, des évangélisateurs, d'innombrables saints, hein? Je crois que c'est au moins 200 saints, afin de faire éclater par tout l'univers et jusque dans les terres les plus inconnues la gloire de l'Évangile, eh bien ne cessez, selon votre sainte institution, d'y faire servir tous les talents de l'esprit, l'éloquence, la politesse, la littérature. C'est bien. Mêle la sainteté au fond, les talents de l'esprit, de l'âme, l'éloquence, la politesse, la littérature, c'est assez curieux, c'est bien. Ce cher Monseigneur Bossuet, hein, sa façon de parler. Ce sont des paroles flatteuses, mais en tous les cas très méritées. J'ai fait mes études chez les Jésuites à Brébeuf et je n'en regrette rien. Mon cousin jésuite est décédé récemment, le père Georges O'Donoghue, qui a laissé un souvenir extraordinaire d'un homme si discipliné, si souriant, si bon et si aimable. C'est mon cousin Germain, que j'aimais beaucoup, du même âge que moi. Il est mort à l'âge que j'ai. Nous avons fait nos études ensemble à Brébeuf. Nous étions dans la même classe. Et je l'aimais beaucoup. Mais je suis allé aussi aux funérailles samedi de ce saint jésuite dont je vous ai parlé vendredi, le père Pietro Leoni, cet Italien, qui a fait 10 ans de concentration en Union soviétique. Un martyr, quoi, pour la foi. Pour la foi. Comme tous ceux dont on parle souvent depuis 3 mois. Et alors, à ma grande surprise, il y avait beaucoup de monde, des gens qui écoutent cette émission-ci, et qui avaient entendu mon appel, que j'avais formulé 3 fois au cours de cette émission, qui avait été rediffusée en fin de soirée. Et j'étais touché du témoignage d'encouragement de ces gens qui sont venus me saluer, et me dire de continuer ce travail qui n'est pas facile, parce que ça demande beaucoup d'études et de lectures et de recherches. Mais je suis content de le faire quand je vois le sourire et le regard de tous ces gens, ces femmes, ces hommes et même ces enfants. C'est merveilleux, ça me console. Mais ce que j'ai trouvé un peu triste, c'est que ce prêtre, qui appartenait au rite byzantin russe, on l'a à peine mentionné, non seulement son martyr pour l'église orientale, l'église de rite byzantin, qu'elle soit orthodoxe, ou qu'elle soit catholique, c'est en fait la même Église, sauf que ceux qui se disent catholiques reconnaissent l'autorité du pape. C'est la seule différence avec les autres. Et je suis allé le voir vendredi après-midi, le père Léoni, dans sa tombe, dans sa petite église de la Présentation, rue Guizot, près de Saint-Laurent, avec cet oignon bleu au-dessus de l'église, selon l'architecture orthodoxe russe. Et alors, je l'ai vu dans sa tombe, ce saint, dans ses ornements byzantins, et j'étais bouleversé de penser que cet homme est certainement au ciel directement. Un saint. Un saint. Car la compagnie de Jésus compte alors depuis le jour de la fête de Sainte-Anne, le jour où il est mort, un saint depuis, eux qui ont certainement 200 saints, je crois. Simplement, en 1970, Paul VI en a canonisé 5. On vient d'en béatifier de nouveau, il y a quelques mois. C'est merveilleux, cet ordre, plein de convictions, qui tiennent compagnie, ces gens qui tiennent compagnie à Jésus. Il y a au moins 200 religieux jésuites dont les causes sont introduites en cour de Rome. C'est dans tous les pays que les jésuites sont. Ils proviennent, oh mon Dieu, les saints jésuites d'Angleterre, de Corée, d'Écosse, d'Espagne, de France, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie, de Japon, du Paraguay, du Portugal, de Savoie, de Sicile, etc., etc. Hein? Et sans compter nos saints martyrs canadiens, qui sont des Français sans doute, mais qui nous appartiennent, je crois. Ils nous appartiennent. Hein? Et un jour, nous en parlerons. Ces jésuites qui ont été 36 000 vers 1970-1960 sont aujourd'hui environ 22 000, 23 000, mais sont encore très puissants hein, par leur foi, leur culture, leur connaissance. Et c'est dû à cet Ignace de Loyola. Cet Ignace de Loyola qui est né le 23 octobre 1491, il y a eu 500 ans récemment, dans le pays basque espagnol, comme je vous ai dit. Il eut au moins 7 frères et 3 sœurs avant lui. On dit même qu'il est le 13e enfant dans bien des vies. Heureusement qu'on ne pratiquait pas l'avortement. Hein. On ne l'aurait pas eu. Quelle tristesse que de tuer tant d'enfants. Hein. Mais mon Dieu, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Hein. Je vous ai déjà dit que quand on célèbre le 25 mars, 9 mois avant Noël, l'Annonciation, faites bien l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de Marie, 9 mois avant Noël. C'est la vieille tradition chrétienne et c'est conforme avec l'enseignement de la biologie, ce qui fait que de nombreux athées et agnostiques sont d'avis qu'il y a là tout un enfant en puissance, qui est très tôt formé. Un jour, nous en parlerons plus clairement. Sa famille était chrétienne, était riche en hommes à la fois solides. Il avait d'ailleurs un frère prêtre. Les chefs des familles dans ce temps-là se payaient souvent le luxe de bâtards. Hein? Même Ferdinand le catholique et Charles Quint ont eu des bâtards. C'est étrange. Mais la catholique Espagne demeurait profondément catholique en dépit de ses péchés. Même les prêtres étaient souvent coquinés avec des femmes à l'époque. Mais malgré tout, ces prêtres souvent étaient fervents. C'est étrange. C'est un drôle de monde que ce monde de cette époque. L'Espagne n'était peut-être donc pas un pays modèle, mais elle achevait un dur combat contre la présence des envahisseurs arabes. C'était terrible. L'Espagne était aussi en même temps un peuple un peu ignorant, un peu grossi sous certains rapports. C'est ce qui explique d'ailleurs les gestes abominables des conquérants espagnols en Amérique, des soldats qui étaient pleins d'esprit de luxure et de vol. Hein. Mais il y avait parmi eux des saints, il y avait eu parmi eux des hommes courageux, et en particulier les membres du clergé, les franciscains en particulier, étaient remarquables de dévouement, de courage pour défendre les Aztèques et les autres peuples qui habitaient non seulement la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique, mais aussi l'Amérique du Sud. Ignace de Loyola s'appelait Inigo. Il avait environ 14 ans lorsque son père est mort en 1507. Alors il alla chez un ami de son père, puis a fréquenté la cour de Castille, du royaume de Castille en Espagne. Et sa jeunesse a été assez orageuse. Il a eu des expériences sexuelles, des expériences de toutes sortes. Et en 1515, on lui a même intenté dans son pays un délit, c'est-à-dire un procès pour des délits qu'on considère comme très grave, mais on n'est pas très sûr ce que c'est. En tous les cas, Saint Ignace a écrit son autobiographie, et il ne donne aucun détail sur les délits très graves dont il a été accusé. Ça manque, ces détails. En tout cas, on peut considérer que lui et son frère Perrault, qui était prêtre, ont dû se livrer à quelques attaques nocturnes, peut-être pour une expédition galante. Je vous ai dit que les prêtres se conduisaient étrangement. Hein. Ne vous scandalisez pas outre mesure. Il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de transformations, et souvent chez des pécheurs de la chair, comme on dit, se cachent des saints qui surgissent tout à coup et qui comprennent que tout ça ne vaut pas un grain de poussière. Hein. Alors, en 1517, il a pris le chemin de Pampelune, notre Ignace de Loyola. Et il avait reçu du vice-roi de Navarre, le commandement d'une compagnie. Au printemps de 1521, le roi de France, François Ier, a lancé une attaque sur la Navarre. Et Pampelune a tenu bon. C'est la capitale de la Navarre. Hein? ça s'appelle Iruña en basque, pamplune. Les Basques habitaient à l'époque une partie de la Navarre. Hein. Donc, l'âme de la résistance contre les soldats de François Ier, bien, c'était notre ami Inigo, Ignace. Il s'appellera Ignace plus tard, change de nom. C'était un gaillard au sang chaud. Hein. On l'avait vu quelque temps auparavant poursuivre l'épée en main, quelqu'un qui l'avait bousculé dans une rue. Imaginez, comme on fait aujourd'hui dans certains bas-fonds des grandes villes américaines. Mais c'est pas avec une épée, c'est avec un couteau aujourd'hui, ou avec un pistolet. Hein. Alors imaginez, ce futur saint était un peu comme ça. Mais il savait se contenir aussi. Un jour de pillage, il a déclaré « Piller n'est ni chrétien ni noble ». Voyez-vous, il y avait le sentiment de la chrétienté, du christianisme en lui. Puis il avait le sentiment aussi de sa noblesse, car il était de famille noble. Il est né dans un château à Loyola. Et le lundi de Pentecôte, 20 mai 1521, ce jeune officier a reçu un boulet français. Oui, on a participé à la sanctification de ce saint. En lui lançant un boulet contre la jambe, ça lui a brisé une jambe, ça a blessé l'autre. Il n'avait plus qu'à souffrir. Et il a souffert. Et c'est au cru de cette souffrance qu'il se convertira et deviendra un saint grâce à un boulet français, je vous le répète. Or, saint Ignace de Loyola, Inigo, est blessé donc par un boulet français, mais l'Esprit Saint l'attendait, l'Esprit Saint le saisit. Et que serait-il devenu si Dieu ne s'était emparé de lui, hein? Il y a des conversions naturelles, pour ainsi dire. On dirait que la sève, là, qui est arrêtée en eux, qui est refoulée, afflue tout à coup. À l'occasion, on ne sait jamais de quoi. Je me souviens d'un Japonais qui s'est converti au son d'une cloche. Un fameux saint japonais de ce siècle. Un jour, je vous en parlerai. Et alors, c'est à l'exemple, d'ailleurs, de... Mon Dieu, vous savez que Henri de Toulouse-Lautrec, qui s'est cassé les deux cuisses, s'est tourné vers la peinture, c'était sa conversion vers l'art, hein, alors qu'il était assez étrange. Cet autre peintre, la Suzanne Valadon, que j'aime beaucoup, qui était acrobate, elle s'est cassée une jambe. Elle est devenue grand peintre. Mais pour lui, c'était autre chose. Hein. Il était... plein de souffrance. Le changement de direction, c'était pas facile pour lui. Lui qui était fort et qui désirait se battre. Eh bien, il était un blessé. Il était un peu comme Martin Luther. Vous savez que Martin Luther a été enfermé au château de Warburg en mai 1521, au même moment où Ignace de Loyola, le 20 mai, 1521 aussi, reçoit son boulet et est enfermé dans son château de Loyola. Au mois de février l'année suivante, Loyola quitte son château pour entreprendre des pèlerinages et Luther quitte, lui, le château de Wartburg en Allemagne en mars 1522, un mois plus tard. Il y a un parallèle à faire entre ces deux hommes qui transformeront l'histoire. Ignace de Loyola sort de sa retraite, donc, pour lancer des vagues d'assaut pour défendre l'Église, alors que Luther, lui, l'attaque, croyant vraiment la réformer en se séparant petit à petit. Hein. Au début, c'était pas son intention, mais ça l'est devenu. Alors, notre Espagnol est l'animateur d'une contre-attaque vigoureuse, hein, qui est à la source, peut-on dire, de la contre-réforme, mais c'est pas pour combattre Luther qu'il se débat comme ça, c'est vraiment par amour pour l'Église et par fidélité au pape, grande fidélité au pape. Il le répète très très souvent. Les Français ont donné les premiers soins à notre blessé. Oui, nous avons peut-être blessé Saint-Ignace, mais nous l'avons soigné. Et au début de juin, il a été transporté donc chez ses parents. Il a reçu les derniers sacrements, hein, le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, puis le 28, vers minuit, il s'est senti mieux tout à coup, après avoir invoqué qui? Le premier pape, Saint-Pierre. Sa jambe le tracassait, elle était trop courte, et par deux fois déjà il avait été supplicié pour son ajustement. Il avait tout supporté sans rien dire. Il avait serré les poings. C'est un courageux et guéri. Il a requis des chirurgiens pour faire une troisième opération. Et on a coupé une proéminence là, qui sortait, puis on a étiré sa jambe comme on put pour la faire aussi longue que l'autre. C'était un vrai martyr. Il a dû garder le lit quelque temps. Il a demandé des romans de chevalerie. Il n'y en avait pas dans la maison de son père. Alors on a trouvé quoi? La Vita Christi en 4 volumes magnifiques de Ludolphe Le Chartreux, qui est mort un 13 avril 1378. Je vous en parlerai au mois d'avril parce qu'il est bien heureux. J'aime beaucoup Ludolphe Le Chartreux. C'est un auteur spirituel extrêmement important. Et puis, notre Ignace de Loyola a aussi lu un texte sur le Christ de Jacques de Voragine. Alors, en lisant ça, il s'est dit qu'il fallait bien qu'il rivalise avec saint François. Et c'est dans un très beau livre que je vous recommande. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. C'est écrit par un Jésuite, publié chez au Centurion il y a une dizaine d'années. C'est peut-être encore sur le commerce, dans le commerce, je l'espère. C'est une quinzaine d'années, c'est peut-être disparu. C'est le père Candido de Dalmasès qui écrit ici. Les bonnes pensées qui lui venaient avec insistance étaient celles-ci. « Que serait-ce si je faisais ce que fit saint François et ce que fit saint Dominique? » Il lui venait alors à l'esprit des choses grandes et difficiles qu'il pourrait faire. Et sa volonté l'inclinait à les mettre en œuvre. Dans son autobiographie, Ignace de Loyola écrit, le plus souvent, il parle de lui à la troisième personne, hein, le plus souvent, son propos intérieur consistait à se dire, Saint Dominique a fait ceci, eh bien moi, il faut que je le fasse. Saint François fait cela, eh bien moi, il faut que je le fasse. Et l'auteur jésuite écrit ici la réflexion, en même temps que la lumière de la grâce, finir par l'emporter dans l'âme du convalescent. Il voyait de plus en plus clairement qu'il lui fallait rompre avec sa vie passée et entreprendre une autre vie radicalement différente. Enfin, la décision fut prise. Quand nous déciderons, nous tous. Et ce Jésuite ajoute, il ne restait plus qu'à déterminer le temps et la manière de passer à l'exécution. Deux points lui semblaient prioritaires. À peine parti de chez lui, il entreprendrait un pèlerinage à Jérusalem. Pour imiter les exemples des saints, il se consacrerait à une vie de pénitence rigoureuse. Comme il arrive à beaucoup d'autres convertis, la sainteté s'unissait pour lui à l'asévérité d'austérité corporelle. La force de telle pensée fut si grande que peu à peu s'évanouirent tous les rêves de vie mondaine. Car il avait eu une vie mondaine. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage qui est bien écrit, qui est bien fait, qui se lit très bien en gros caractères. C'est un magnifique volume. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites de Candido de Dalmasès. Dalmasès, D majuscule A-L-M-A-S-E-S. Alors donc, les rêves mondains disparaissent. Il se voit partant pour Jérusalem, pieds nus, ne mangeant que des herbes. Ah, le beau pèlerinage. Mais une nuit, en nous, il a vu une image de Notre-Dame et de l'enfant Jésus, et dès lors, c'est un dégoût pour sa vie passée, pour les choses de la chair. Et son frère et ceux qui l'approchaient voyaient bien qu'il était changé. Tout son idéal de service militaire tournait au profit du Christ. Il emploierait désormais, à des œuvres saintes, là, ses membres qui étaient l'instrument de platitude, de désordre, d'impureté. Alors Inigo, ou si vous préférez Ignace de Loyola, commençait à se lever. Il entreprit de se faire un livre d'extraits de la vie du Christ et des saints. Les saints l'ont marqué, hein, puis le Christ lui-même. Il calligraphiait tout ça à l'encre rouge pour les paroles du Christ, à l'encre bleue pour celle de la Sainte Vierge. Le soir, là, il regardait les étoiles avec un grand élan vers le service de Dieu. C'est quand on regarde les étoiles dans le ciel, est-ce qu'on n'a pas le sentiment profond de la présence de celui qui a créé tout cet univers? Moi, j'ai toujours ressenti ça depuis mon enfance. Je suis toujours bouleversé par cette immense présence de Dieu. Et grâce aujourd'hui au microscope et à la télévision, on peut voir les infiniment petits, et non seulement les infiniment grands, et on a le même sentiment. Devant la beauté de tout ce que Dieu a fait, la précision de notre cerveau et des moindres détails, c'est fantastique. Et il se disait, Ignace, en regardant les étoiles, « Oh, partir vers Dieu !» On a un vertige comme ça, hein. Douce mort, quand viendras-tu? C'est ce qu'il ressentait lui-même et c'est ce que je ressens depuis mon enfance. Oh, la mort, c'est pas horrible, c'est beau, c'est lumineux, c'est la rencontre de Dieu pour toujours. Si on pouvait se mettre ça en tête et dans le cœur, on n'en aurait plus peur, on avancerait vers elle le sourire aux lèvres, on serait prêt à tout quitter, même ceux qu'on aime. Il faut bien y arriver un jour, c'est une grâce de Dieu. Il y est arrivé, il a de très beaux textes sur la mort, magnifiques. Hein? Alors, quand il serait revenu de Jérusalem, notre Ignace, eh bien, peut-être pourrait-il s'enfermer, inconnu et méprisé, dans une chartreuse. C'était son rêve. Alors, notre ami Saint Ignace de Loyola, aujourd'hui, en cette grande fête, on le célèbre dans toute l'Église, le 31 juillet, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, vous écoutez présentement, rencontre spirituelle. Donc, notre Ignace de Loyola a rêvé d'entrer à la chartreuse de Séville. Si la vie des chartreux vous intéresse, je vous recommande, publié par une maison d'édition profondément chrétienne, catholique, Nouvelle Cité, un livre qui s'appelle « La vie cachée des chartreux » avec des photos. C'est très, 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 très intéressant. C'est un journaliste qui a publié ça, mais c'est bien fait. C'est Robin Bruce Lockhart. Une traduction. Mais il y a aussi un très beau livre publié par un chartreux qui s'appelle « La Grande Chartreuse ». C'est un magnifique volume qui a été publié en 1976 et repris en 14e édition en 84. C'est sous une couverture rigide. C'est très beau avec de magnifiques photos. J'ai lu plusieurs fois ses ouvrages, parce que c'est toujours une vie qui me tente et qui m'attire, mais je sais que c'est pas ma place. Il s'appelle Pero Lopez, c'est son compagnon de frasque. Hein. Alors, il s'est arrêté pour une veillée à Notre-Dame, car il avait confié sa vie à la Sainte Vierge. Alors, il a laissé son frère à un certain endroit, puis là, il a poussé un peu plus loin pour demander à son ancien chef, le duc de Najera, quelques écus qu'on lui devait. Alors, le duc offrit quand même une bonne situation à son ancien officier, mais Inigo de Loyola se contenta de son argent. Il l'a fait distribuer à des personnes auxquelles il avait des obligations, puis une autre partie a été donnée pour orner une image qui était négligée de Notre-Dame, parce qu'il y avait des images de Notre-Dame ou des statues aussi qu'on voit au coin des rues un peu partout en Espagne, comme à Paris d'ailleurs, il y en a un peu partout en Europe. Hein. Alors, il a voulu qu'on répare cette statue. Et puis, il a congédié deux serviteurs qu'il avait avec lui, car il était noble. Là, il est parti seul avec sa mule vers le fameux monastère bénédictin du Montserrat en Catalogne. Un monastère merveilleux. Je suis allé deux fois. J'ai rencontré là même un ermite bénédictin dans les sommets des montagnes qui sont roses le soir au coucher du soleil. C'est un immense monastère où on chante très bien, où il y a un collège pour les jeunes et les voix des enfants se mêlent à celles des moines. C'est sensationnel. C'est le grand lieu de pèlerinage des Catalans, la Catalogne espagnole, tout près de la France. Et puis là, il ruminait des pénitences qui feraient, s'enfonceraient dans le désert comme les saints. Il était porté par un désir de changer totalement de vie. Là, il était rejoint en route par un musulman qui était monté sur un mulet. Alors là, il s'est mis à causer, puis il a été question de la Sainte Vierge, et le musulman refusait à admettre qu'elle soit restée vierge après avoir mis l'enfant Jésus au monde. Et Saint Ignace, qui était un peu étrange, lui a répliqué de son mieux. Et à un moment donné, le musulman agacé a pris les devants. Il est disparu. Alors là, Inigo de Loyola était irrité. Il a songé à le poursuivre pour le poignarder. Imaginez, c'est très étrange. Je vous le raconte pour que vous sachiez que si vous avez des mouvements de colère, vous pouvez même vous devenir des saints. Et oui, parce que peut-être que la colère est une qualité dans un sens, en ce sens qu'elle peut être transformée en toute autre chose par la grâce de Dieu. Alors là, à une bifurcation de la route, il s'est décidé à laisser Dieu trancher. Alors, c'est dit, si la mule va vers le village, il le
poignarderait ce mécréant. Mais si elle prenait la grande route en dehors du village, là, il laisserait l'affaire et la mule, heureusement, a pris la grande route. Et notre futur saint s'est conduit comme du monde. Alors là, il est arrivé devant le Mont-Sérat, puis il a fait son pèlerinage. Il a acheté un bourdon. Vous savez ce que c'est? C'est un long bâton de pèlerin, un bourdon. Il a acheté une gourde, des espadrilles, mais il n'en a chaussé qu'une seule. Le pied malade, pour marcher pied nu sur l'autre pied, c'est extraordinaire. Je trouve ça absolument mystérieux. On n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, je pense. Mais c'est intéressant de voir comment ces saints sont arrivés à la sainteté par des choses un peu folles, mais qui, Dieu, au fond de ces folies-là, trouve à rejoindre l'âme de ces saints pour leur faire voir les vraies réalités. Alors là, le 21 mars, il arrive là, au grand rocher du Mont-Sérat dont je viens de vous parler. Puis les journées du 22 et 24 mars ont été occupées par une confession générale. Je vous recommande, certains d'entre vous, n'hésitez pas à faire une confession générale de temps en temps dans votre vie. Avoir tout à coup la certitude que par la grâce du sacrement de la confession, ou si vous voulez le sacrement de pénitence, ou si vous préférez le oh mon Dieu, comment on appelle ça aujourd'hui. C'est tellement nécessaire, je crois, tout à coup, d'avoir cette certitude qu'on est complètement propre, que Dieu nous a lavés complètement. C'est très consolant. Alors, il fait ça à un bénédictin français, lui. Et sa confession générale l'aide beaucoup. Là, il décide de laisser sa mule au monastère, de suspendre son épée, son poignard à l'autel de la Vierge pour les « c'est fini, tout ça ». Et dans la nuit du 24 au 25 mars, ce grand chevalier fait une grande veillée d'armes devant la Vierge, qui devient la dame de ses pensées, et Notre-Dame Marie, comme il l'appelle. Et au soir de cette vigile, il donne secrètement à un pauvre tous ses vêtements. Il prend un sac, il va s'agenouiller devant l'autel de la Vierge, et toute la nuit, se passe en prière, debout ou à genoux, avec son bourdon, son bâton, là, en main. Ça fait mal aux reins, je vous assure, être à genoux longtemps. Quand j'étais jeune moine, 18-19 ans, on restait à genoux pendant très longtemps, des fois, pendant des longues litanies des saints. Des cérémonies qui semblaient parfois interminables, tellement ça faisait mal, mais que j'aimais tellement parce qu'on était dans un monde de prières merveilleux. Mais ça fait mal aux reins. Alors heureusement qu'il avait son bourdon pour s'appuyer. Puis il gagna la petite ville de Manres, à 4 lieues de Mont-Sérat, et là, il a logé dans un hôpital, il prenait note dans un livret, de sortes de détails. C'est devenu ses exercices spirituels. C'est publié, les exercices spirituels. Vous pouvez acheter ça chez DDB Bellarmin, Maison Bellarmin. Il y a une édition en 300 pages, une autre en 230 pages, et les deux, c'est passionnant, hein. Je suis allé à Manres, j'ai prié là longtemps, et j'en ai rapporté des petits cailloux en souvenir, j'en ai fait des petites reliques. Car c'est à Manres qu'il a trouvé vraiment la grande, grande transformation de son âme. Et là, il s'est mis à demander l'aumône, il mangeait pas de viande. Mais il trouvait consolation à entendre chanter à l'église la messe, les vêpres, les complis. Vous savez qu'il y a des vêpres. Vous pouvez rester des vêpres dans certaines églises à Montréal. Allez au métro Mont-Royal chez les Pères du Saint-Sacrement après la messe de 4h30. On peut chanter les vêpres. Et alors donc, d'ordinaire, pendant la messe, on dit qu'il lisait la Passion. Puis pas d'accord, je crois qu'il faut s'unir aux prières de la messe. Mais c'est étrange. Il se confessait, communiait tous les dimanches. Pas de mauvaise idée. Les scrupules sur ses péchés passés le tourmentaient quand même. Alors un dominicain a essayé de le tranquilliser, parce qu'il logeait chez les dominicains. Mais sans grand succès. Alors Inigo songea même, d'une façon aberrante, oh, très peu, mais il y a songé, c'est comme des éclairs dans son cerveau, au suicide. Hein. Mais c'est décidé à se faire violence, hein, pour obtenir la paix. Il l'a bien demandé à Dieu, Dieu l'a lui accordé. Et alors, toute la semaine, il mangeait presque rien, mais il pratiquait tous ses exercices de piété. Il s'est vraiment converti, hein. Et finalement, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il exagère. Là, il a fait un pèlerinage à Jérusalem, vers le 17-18 février 1523, Il est venu de Manresa à Barcelone, toujours en pays catalan, et puis il a pris le large. Il s'en allait vers le tombeau du Christ. Alors il est parti pour l'Italie. Il est allé à Rome, il est allé à Venise, il est allé à Chypre. Et puis, le 4 septembre, oh, c'est le jour de mon anniversaire, il est entré à Jérusalem. Il voulait y rester à l'ombre d'un couvent franciscain. Ça vous rappelle quelque chose, les lecteurs de la vie de Charles de Foucault, hein? Charles de Foucault est allé comme ça, quand il a quitté sa trappe de Notre-Dame-des-Neiges en France avec la permission du pape. Il est allé comme ça à Jérusalem, puis il est resté chez les Clarisses de Nazareth, finalement, Charles de Foucault. Ben lui, il a eu la même tentation, Ignace de Loyola. Mais le provincial lui a dit qu'il ne pouvait pas le garder. Et Ignace s'est entêté. On lui a parlé d'excommunication pour le faire le raisonner, parce qu'il était têtu. C'est dans son écriture, c'est un homme têtu. Et les gens têtus ont peut-être plus de chance que les mollassons de devenir des saints. Ça se transforme. Nos défauts peuvent devenir des grandes qualités si on les donne à Dieu, si on est confiant en lui et si on accepte d'être transformé par l'Esprit Saint. Il a fait une escapade au mont des Oliviers, finalement. Il a quitté Jérusalem. Et puis, il est parti par Jaffa, le 3 octobre. Et à la mi-janvier 1524, il était à Venise. Il faisait très froid. Ah, là, il savait plus trop quoi faire. Alors, il s'est demandé que faire, vraiment, là. Il a décidé d'étudier. Puis là, il a entrepris toutes sortes de choses. Il a donné son argent. Il passait pour fou. Tellement, il voulait être pauvre, hein. Alors, en Espagne, il a étudié de 1524 à 1527. Il voulait servir Dieu efficacement, unir la connaissance intellectuelle à son humilité, car il était humble. Et l'humilité ne tient pas à l'ignorance. C'est pas parce qu'on est ignorant qu'on est humble. Je tiens à vous le répéter 100 et 1000 fois, le pape n'est pas un ignorant. Les cardinaux les plus avertis ne sont pas des ignorants. Saint Thomas d'Aquin était loin d'être un ignorant, mais il était humble. Et parfois, je rencontre des gens bien ignorants qui, malheureusement, manquent d'humilité. Il y a des gens instruits, moi le premier, qui sont peut-être orgueilleux, mais j'ai connu des gens humbles chez des gens instruits. On en connaît, hein? Je vous ai mentionné le pape, je suis sûr qu'il est humble. Après ses études en... Il rêvait d'entrer en religion, puis il rêvait d'entrer dans une communauté où il transformerait les choses, une communauté décadente, une communauté difficile. Hein? Il rêvait de ça. Il mendiait pour vivre. On l'accueillit dans un hôpital. Et puis, il discutait ferme des idées nouvelles d'Érasme, et même celle de Lefèvre d'Étaples dans les milieux intellectuels. Lefèvre d'Étaples qui est mort en 1537, Érasme, lui, est mort en 1536, donc ils étaient encore vivants quand notre saint Ignace de Loyola, en 1526-27, discutait de leurs pensées. Lefèvre d'Étaples, c'est un humaniste, un théologien français, là, qui rêvait de réformer l'Église catholique, hein. C'est un traducteur de la Bible aussi. Ça lui a pris 7 ans pour traduire la Bible, de 1523 à 1530. Tu sais, les gens qui disent que la Bible n'existe pas en français, petite erreur. Ah, mon Dieu, c'était traduit en français même plusieurs siècles avant ça. J'ai tout de détails là-dessus. C'est très, très intéressant. Et alors donc, ils discutaient de leurs choses. Il a même passé pour suspect. Déjà, le premier jésuite passe pour suspect. C'est pas d'aujourd'hui. Il portait, avec 4 camarades, des habits bruns. Et puis, il passait pour être des illuminés, comme les alumbrados, ce qui était une secte dont je vous parlerai encore un jour. Dans l'occasion, j'ai des saints dont je vous parlerai, qui ont été mêlés un peu à ça. Alors, nos 5 compagnons ont été examinés par le vicaire général d'Alcala. Puis, le 21 novembre 1526, la sentence a été rendue. Ils devaient faire teindre leurs vêtements. Et alors là, ils les ont fait teindre. Et le 6 mars 1527, une nouvelle enquête à propos des rapports d'Inigo avec une personne pieuse, sans conséquences fâcheuses pour lui. Le 20 avril 1527, quelqu'un est venu le trouver dans son hôpital, lui a dit « Venez un peu avec moi ». Puis là, on l'a emprisonné. Il dit « Vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à nouvel ordre hein, ». Parce qu'on le soupçonnait d'être hérétique par rapport à certaines choses. Mais c'était plus des accusations fausses. Alors l'autorité a condamné Inigo à quitter ses hardes de pèlerin pour se vêtir comme des étudiants. On lui a défendu d'enseigner, même en privé. Il a accepté sans peine la première sentence qu'il l'invitait simplement à vivre comme les autres. Il n'y avait qu'à mendier pour se procurer les habits exigés, donc, parce qu'il avait tout donné aux pauvres. Et la seconde, là, c'était dur pour lui de ne pas enseigner. On lui enlevait le moyen de secourir les âmes, disait-il. Car s'il n'avait pas étudié, il avait appris beaucoup de choses. Alors il est allé trouver l'évêque de Tolède à Valladolid. Il a obtenu la permission d'aller poursuivre ses études à Salamanque, dans la belle cité universitaire de Salamanque. Alors les camarades d'Ignace de Loyola se rassemblent autour de lui à Salamanque et finalement ils vont à Paris. Et de 1528 à 1535, il étudie à Paris puis il loge au couvent Saint-Jacques chez les Dominicains. Vous savez que les couvents Saint-Jacques est toujours là, que rue Saint-Jacques, c'est là que nous étions allés, Marcel Brisebois et moi, l'abbé Brisebois, interviewer des gens comme le père Congar, le père Chenu et quantité d'autres, dans ce couvent dominicain fantastique qui a tant donné à l'église d'hommes de très haute qualité. Et c'est au couvent Saint-Jacques que les Dominicains ont communiqué à Ignace de Loyola leur admiration pour saint Thomas d'Aquin. Il a finalement reçu ce qu'on appelle le bonnet doctoral de maître Essard après Pâques 1534. Ça vous rappelle 1534, la découverte du Canada, la même année. Il devient malade, hein, il souffre beaucoup de l'estomac, mais il est content d'avoir acquis une honnête culture, selon ce que disent d'ailleurs certains de ses compagnons. Et il a une solide expérience de pédagogue. Et comme en Espagne, la dévotion exagérée avait été parfois un obstacle à son travail scolaire, bien là, à Paris, ça n'a pas été la même chose. Il a toujours eu le désir d'apprendre et de se conduire de mieux en mieux par rapport à sa santé. Et là, il a des angoisses quand même, parce qu'il se demande quoi faire de sa vie. Et les anciens compagnons de notre Ignace de Loyola, ils ne l'avaient pas toujours rejoint. Il y en avait d'autres qui sont venus. Puis c'est de là qu'on voit le fameux Favre qui meurt très jeune. François Xavier et quantité d'autres qui ont laissé leur nom. Hein, Simon Rodriguez, un Portugais. Et c'était formidable, ils sont allés à Montmartre finalement, et c'est là dans la chapelle de Montmartre, à Paris, qu'ils font leur vœu, provisoirement, hein, pauvreté, chasteté. Puis un vœu étrange, un pèlerinage à Jérusalem pour convertir ceux qu'ils appellent les infidèles, c'est-à-dire les musulmans. Alors si le voyage était impossible, on irait à Rome se mettre à la disposition du pape. Et tous ont communié, ont fait à Dieu leur bonne volonté. Et c'est comme ça que, retourné dans son pays basque en Espagne, eh bien, il préférait agir comme un inconnu au début, et puis il catéchisait les enfants, il parlait aux grandes personnes trois fois par semaine, puis il lui arrivait de monter dans un arbre même pour être mieux entendu. Ça lui servait de chair, hein. Vous savez qu'autrefois, les prêtres montaient, on dit en chair, c'est-à-dire monter un escalier là, dans le champ de l'église pour être bien entendu de tout le monde. Il n'y avait pas de microphone. Hein. Alors, il y avait dans le pays beaucoup de concubines, de prêtres ou d'autres hommes. Hein. Des concubines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Se couvraient la tête, la manière des femmes mariées. Puis lui, Inigo, a lutté contre cette coutume. Il a obtenu des conversions parce qu'elles n'avaient pas le droit de se couvrir la tête comme si elles étaient mariées. Parce qu'elle vivait avec des prêtres, c'était pas un signe de mariage. Quelles étranges choses qui sont toujours à recommencer, et l'histoire de l'Église est pleine de ces mauvaises mœurs, et tout à coup de grandes conversions, où on dirait que tout le monde devient de parfaits chrétiens. Et ça recommence, des montées, des descentes. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression que nous sommes au creux d'une grande vague. La grande vague va remonter. Un soir qu'il était malade, deux de ses nièces sont venues le visiter dans son hôpital où il travaillait. Comme elles se retiraient pour avoir éteint la chandelle, elles ont entendu leur oncle qui parlait, puis elles sont revenues doucement. Et la chambre était illuminée comme avec des torches. Il leur a dit de ne rien dire. C'est qu'il avait déjà des apparitions. De véritables apparitions, pas des farces. C'est pas des illuminations d'idiots. Non, c'était un grand saint qui déjà, dans son cheminement, était marqué par la volonté de Dieu. Et alors là, Finalement, il a abouti à Rome avec ses compagnons. Ils sont descendus dans une maison près de la Trinité des Monts, là, la grande église de la Trinité des Monts, ce grand escalier. Ils ont commencé à prêcher, à confesser. Et là, ils ont été pris comme professeurs à la Sapience, une école de théologie très importante. Et puis, l'un des pères déclarait « L'obéissance produit des actes et des vertus héroïques qui peuvent être continues. » Il se rendait compte de plus en plus qu'il leur fallait un règlement d'obéissance, une congrégation à établir. C'était pas facile. Et la fondation proprement dite s'est faite à Saint-Marc de Venise, dans la grande basilique Saint-Marc de Venise, le 27 septembre 1540. C'était le baptême, si on peut dire, des jésuites, et en 1541, la mise au point des constitutions a commencé. Et tout ce grand ordre se dessine tout à coup. Et là, le pape Jules III, 21 juillet 1550, a confirmé ces constitutions. Mais la date, c'est bien 1540. C'est pour ça qu'on a pu, on a célébré, en 1990, le 450e anniversaire de cet ordre magnifique, extraordinaire. Les prophètes ajoutent aux trois vœux traditionnels un vœu d'obéissance au pape, et ils disent, puisqu'il est le pape, le maître de toute la maison du Christ. Je suis bien d'accord avec ça, et j'en ai marre parfois de toutes ces critiques que l'on lance au pape. Essayons donc d'être plus calmes, de lire attentivement ce que le pape dit, pour essayer de comprendre si ce qu'il dit ne mérite pas d'être vraiment dit. Et je crois que souvent, le pape parle comme un prophète de l'Ancien Testament. Il va à contre-courant, parce qu'il faut aller à contre-courant d'une décadence qui s'installe partout. On me dira que je suis d'extrême droite, ça ne me dérange absolument pas. Je sais que je ne le suis pas. Je sais que je crois des choses de gauche et de droite et d'en haut et d'en bas. Je vais là où il me semble que c'est vrai. La compagnie s'est développée rapidement. En 1549, un an avant que les constitutions soient complètement confirmées, là, elle comptait déjà trois provinces, en Espagne, au Portugal, aux Indes, avec 20 maisons. Puis en 1556, 12 provinces, 76 maisons. Et quand il meurt, là, il y a 1000 jésuites. Ils sont partout dans le monde. C'est incroyable. Il a été l'animateur, Saint-Ignace de Loyola, d'une activité mondiale. Il a cultivé jalousement l'union à Dieu, le détachement des choses créées, stupides et plates, mais il les a aimées, les choses créées, pour les transformer sous le regard de Dieu. C'est pour ça que ces hommes, aimant le monde pour ce qu'il a de beau, le transformaient. Il faut lire vraiment les exercices spirituels. C'est le vrai titre, c'est exercice spirituel pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se déterminer par aucune affection qui soit désordonnée. Donc on a droit à des affections, il faut aimer le monde, mais l'aimer pour ses valeurs. C'est pour ça que tant de jésuites qui ont été, mon Dieu, à Brébeuf nous avions un spécialiste des tremblements de terre, le père Bioust. Bon, on dirait il perdait son temps, pas du tout. Il aimait la planète Terre, il l'étudiait. Et il avertissait, et il pouvait étudier des choses. On se référait à lui partout en Amérique du Nord. Mais pourquoi pas, hein? Les jésuites ont toujours été à l'avant-garde dans tas de domaines. Littéraires, les arts, la philosophie, mais aussi la théologie, l'écriture sainte et tout. Dans les exercices, on dit que le Seigneur vous donne grâce parfaite pour connaître sa très sainte volonté et l'accomplir entièrement. Ce qui habite les jésuites, c'est la gloire et la louange de Dieu. Dans le sens de l'amour, hein, il ne s'agit pas de glorifier Dieu comme si c'était un despote. Il s'agit de le glorifier parce qu'on l'aime et on sait qu'il nous aime. Et que tout ce qu'il nous a donné, même la mort, c'est une grâce. La mort, c'est un grand saut dans les bras du bon Dieu, comme disait cette Clarisse dans un film que j'ai fait sur les Clarisses de Valéfine. C'est un grand saut dans les bras du bon Dieu. Tout est grâce, hein. Il disait, « Oh, je les aime, mes fils, tant, je les aime tant que je voudrais savoir le nombre des puces qui les dévorent. Il avait de l'humour, Saint-Ignace de Loyola. Il avait beaucoup d'humour. Et il faut lire. Faudrait que je vous parle encore de Saint-Ignace de Loyola, l'occasion d'autres saints, comme bientôt dans ce mois, le 18 août, nous célébrerons le bienheureux Albert Hurtado Crucarga, ou Cruchaga, si vous préférez, un Chilien, qui a été béatifié le 16 octobre de l'an dernier, 1994. Un bienheureux qui aimait les pauvres. Donc, son autobiographie à Saint-Ignace de Loyola est publiée au Seuil. C'est traduit de l'espagnol et annoté par Alain Guillermo. C'est un très beau livre à se procurer pour lire dans un gros caractère, en moins de 200 pages, cette autobiographie de ce grand saint. Vous pouvez acheter aussi dans Maître spirituel, toujours par le même auteur, Alain Guillermo, Saint-Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus, avec des illustrations magnifiques. C'est aux éditions du Seuil, encore dans la collection Maître spirituel. Je ne peux pas vous condamner, vous conseiller de lire Time Magazine de 1973. Le numéro était consacré aux jésuites. Mais vous pouvez lire quand même de Simon Declous, jésuite, La Voix Ignatienne à la plus grande gloire de Dieu. La Voix Ignatienne, publiée chez Bellarmine et DDB. Et aussi le fameux ouvrage de Jean Lacouture, Jésuite au pluriel, publié au Seuil, en plusieurs volumes, des gros volumes. Les Jésuites, pouvoir, histoire du pouvoir, par Alain Woodrow chez Jean-Claude Lattès. Ouvrage très intéressant, mais il y en a tellement d'autres. Je ne saurais vous dire, trop vous recommander de lire pour bien aimer les Jésuites, auxquels nous devons tant, et auxquels personnellement je dois tant, et je les remercie.